Et puis les bébêtes qui montent, c'était qui? Il vient d'où là? C'est la bête qui monte de la mer. Et celle qui monte de la terre, c'est voilà, le faux prophète. Et Tonio a très bien, si vous voulez, vous rappeler un peu de l'identité de ces personnages, c'est de se dire qu'en fait, Satan, donc le dragon, l'antéchrist et le faux prophète représentent comme une trinité diabolique. Où Satan, c'est comme le Père, l'antéchrist est comme le Christ, et le faux prophète, c'est comme le Saint-Esprit. Il a parlé des deux surtout on a dû passer un peu vite sur la marque de la bête. Et tous ceux qui seront vivants à cette période devront utiliser une marque de la bête, le chiffre de son nom. On a expliqué que en alphabet, plutôt dans la langue hébraïque et dans la langue grecque ancienne, les chiffres et les lettres, ce sont les mêmes symboles, les mêmes caractères. Et donc, on peut attribuer une valeur numérique à un nom. Un peu comme si on attribuait la lettre 1 à la lettre A, 2 à la lettre B, 3 à la lettre C. Après, on écrit son nom et on peut faire un total de la valeur des chiffres. Et il y a cette fameuse valeur de 666 qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, j'en suis sûr, en fera beaucoup couler d'autres. On a dit aussi que 6, c'est le chiffre de l'imperfection, c'est le chiffre de l'homme. 7, c'est le chiffre de la perfection. 8, c'est le chiffre de Jésus, Jésus-Christ. En grec, si on fait le calcul du nom de Jésus, on tombe sur 8. C'est plus que la perfection, c'est Dieu, c'est divin, le 8. Donc, tout le monde devait porter ce chiffre pour pouvoir acheter et vendre. Alors, c'est vrai que ça pouvait paraître bizarre il y a 100 ans, 150 ans pour les commentateurs. Mais nous qui sommes à l'époque des cartes de crédit, avant, je me rappelle, on sortait la carte de crédit juste pour faire des grands achats. Mais maintenant, on va à Leader Price pour acheter une baguette. On peut payer avec une carte de crédit. Par contre, les chèques, ça les aime moins. Ça coûte plus cher. Mais on a cette technologie, non seulement au niveau des logiciels pour les cartes de crédit, mais même aussi au niveau de l'implantation de petites balises, de petites comprimées qui donnent les informations sous forme électronique, qu'on appelle les RFID. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Identification Remote Frequency or whatever. On a des petites ampoules qui ne sont pas plus grandes qu'un grain de riz, qui permettent d'identifier par exemple les chiens. On met ça dans la graisse du cou des chiens, une petite pastille avec une information numérique qui permet de les connaître. Les soldats, maintenant, au lieu d'avoir une chaîne avec un numéro gravé sur l'aluminium, ils peuvent aussi avoir dans certains corps qui prennent beaucoup de risques, dans les marines ou les fusils marins, ils ont aussi des petites pastilles. Donc toute cette technologie d'avoir une marque, on voit comment on peut scanner maintenant, même avec un téléphone, on peut scanner des choses. Donc la technologie, tout se met en place. Et ce qui est remarquable, c'est que ce qui pouvait paraître complètement farfelu il y a 150 ans, maintenant on s'est dit, ben oui, ça pourra très bien se faire. C'est plus une grande surprise. Voilà, ce soir on va continuer avec les chapitres 14 et 15 du Voulant. Et on va lire Si quelqu'un veut bien lire les versets 1 à 5 à haute et intelligible voix, oui.
Je regardais, et voici, c'est 14 ans.
Mm-hmm. Oui.
Je regardais, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom, et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantent un cantique nouveau, devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas, souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables.
Voilà, on va s'arrêter ici pour l'instant. Donc, on va dans cette scène, l'agneau, Jésus est debout sur la montagne de Sion, d'où Jésus va régner pendant le millénaire, son règne de 1000 ans. Tony avait fait remarquer qu'il y a l'enchaînement des sauts, des trompettes, des coupes, il y a une certaine progression chronologique, mais il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas nécessairement dans la chronologie où ils sont décrits. Il faut se garder du moins de croire que c'est automatique, que si ça arrive quelques versets avant, ça veut dire que ça s'est passé avant. Là, on pense qu'on est à la fin de la période de la Grande Tribulation. Donc la tribulation, c'est cette période de 7 ans. On y reviendra avec l'Antéchrist qui, au bout de 3 ans et demi, de 42 mois, 1320 jours, je crois, ou 1460, va se révéler comme étant celui qui cherche à se faire adorer dans le temple reconstruit de Jérusalem. Là, on est la montagne de Sion. Alors certains pensent que ça peut être une montagne de Sion dans les cieux. Moi, je suis d'avis de prendre au premier degré en disant que c'est la colline sur laquelle est construite Jérusalem, qu'on appelle la montagne de Sion. Jérusalem, si vous êtes passé là-bas ou si vous avez l'espoir d'y aller un jour, vous verrez, c'est vraiment une ville construite sur des collines. Et cette colline de Sion, c'est celle sur laquelle se trouve le temple. Et là, c'était la maison de David. On a retrouvé il n'y a pas longtemps des ruines qui correspondent à l'ancien palais de David. Et c'est vraiment émouvant de penser qu'on est là où David a été, où Jésus a marché. Et avec lui, il a 144 000 personnes. On pense aussi que c'est après la terrible bataille d'Armageddon. Armageddon, on connaît le nom en français peut-être, ça veut simplement dire la colline de Megiddo. Et c'est une colline qui domine toute une plaine, la plaine de Jisraël ou la plaine de Megiddo, qui a été un lieu de grandes batailles au cours de l'histoire. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des batailles, mais c'est là que se croisaient les courants de civilisation, et il y a eu beaucoup de batailles. C'est une très belle plaine, très fertile. Quand on y est passé il y a quelques années avec Nancy, on a vu, il y a même une piste d'avion souterraine, donc les avions peuvent atterrir, et après ils se cachent, ils rentrent sous des souterrains, et c'est là que va se rouler la grande bataille. Et là, il y a ces 144 000. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces 144 000 personnes? On en avait entendu parler quelque part. Chapitre 7.
Oui.
avant l'ouverture du septième sceau, un des anges avait dit, il tenait le sceau du Dieu vivant. Oui. Vous l'avez trouvé ?
Verset 4.
Voilà. Et ils étaient marqués d'un sceau sur leur front. Ils n'avaient pas un code barre sur leur front. Ils avaient un sceau. On va voir ce que c'est. Et puis, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et puis, il y a les précisions, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben, etc. Est-ce que vous avez assez de lumière ? Vous voulez un peu plus de lumière ? Ça va ? Très bien. Certains essayent de différencier entre ces deux groupes de 144 000 personnes. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de raison de le différencier. Ceux qui essaient de trouver des raisons, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je n'ai pas trouvé ça convaincant. D'autant que ce qui est remarquable, c'est qu'il y en avait 144 000 au début de la Grande Tribulation, au chapitre 7, ceux qui étaient marqués par ce sceau, et que, donc c'était des Juifs, hein, et clairement, c'était pas des témoins de Jéhovah, c'était pas des Mormons, comme ils aimeraient bien des fois se faire passer pour un groupe d'élite, par élitisme, dire que eux, ils représentent les 144 000 qui ont été choisis par Jéhovah. Ça a été leur théorie jusqu'à ce qu'ils dépassent ce nombre de 144 000. Et maintenant, ils ont... C'est la première classe, on va dire, les 144 000 pour les témoins de Jéhovah. Mais ils sont obligés d'amener tous les autres. Et ça tient pas debout, leur logique. Et... on voit donc au chapitre 14 que Élodie a lu, il voit l'agneau debout sur la montagne de Sion. Avec lui, il n'y a pas 143 999 personnes, pas 143 000, il y en a toujours 144 000. Ces 144 000, ils ont donc survécu à cette période terrible de cataclysme, d'attaque de Dieu sur la terre. D'ailleurs, parenthèse, il y en a parmi vous qui ont regardé hier soir, il y avait une émission sur Direct 8, sur le chaos et sur la grande tribulation. C'était surprenant, c'est une chaîne non chrétienne. Et pourtant, ils ont montré ce programme qui doit être disponible en ligne, si vous cherchez sur Direct 8. Et il parlait, il confrontait la réalité des nouvelles, des informations avec ce que dit la Bible. Et il y avait un des auteurs de cette série sur Left Behind, Laissé pour compte derrière. Il y a des romans sur la période de la Grande Tribulation, sur l'Apocalypse. Et il y avait donc ça devient un sujet qui touche beaucoup de personnes. Il montrait les cataclysmes, il montrait aussi la technologie des cartes de crédit et donc, sachez que ces choses-là, quand vous en parlez autour de vous, les gens s'inquiètent. Les gens se demandent qu'est-ce que c'est que ça. Et c'est vrai que le mot d'apocalypse a une connotation très négative, parce qu'en général, pour les non-chrétiens, c'est très mauvais. Mais pour les chrétiens, ça ne doit pas être un sujet de peur. Au contraire, ça doit être quelque chose qui doit nous rassurer, qui doit nous donner la paix. Parce que même si ça explose de tous les coins, s'il y a des catastrophes, s'il y a le réchauffement climatique, s'il y a des guerres, s'il y a du terrorisme, tout ça est indiqué dans la parole de Dieu. Et il est capable, comme il a... On est de la vision qui dit que l'Église va être enlevée au début de la période de la Grande Tribulation. Donc, nous, en tant que chrétiens, maintenant, on n'a aucun souci à se faire quand on lit tous ces cataclysmes et tous ces malheurs qui arrivent sur la Terre. Mais on sait qu'il va y avoir aussi des gens qui vont être sauvés pendant la période de la Grande Tribulation. On a dit qu'il y avait ces deux témoins au chapitre 11... on pense que c'était Élie et Moïse qui sont mis à mort et puis qui ressuscitent et qui entraînent un témoignage parmi les juifs qui les finissent par accepter pour un grand nombre Jésus comme leur sauveur, comme le Messie qu'ils attendent. Donc il y a des personnes qui vont être sauvées au début, pendant la tribulation. Il y a aussi des saints qui sont rachetés, parce que tous les gens à qui vous avez témoigné de votre foi, ceux qui ont, à qui on a donné une Bible, ceux qui ont vu un film présentant l'Évangile, ces personnes elles vont vraiment se questionner lorsqu'elles s'apercevront qu'il y a, plein de leurs amis chrétiens ne sont plus là, qu'il y a, eu des... Alors après, c'est un peu de folklorique d'imaginer ce qui a pu se passer, que des avions sont écrasés parce que les deux pilotes sont partis en... appelés par le, dans l'enlèvement de l'Église. Mais toutes ces catastrophes vont penser un certain nombre de personnes à remettre en question leur incrédulité. On voit aussi que la plus grande majorité va continuer, malgré ses problèmes, à se rebeller contre Dieu. Et encore une fois, souvent on peut être découragé quand on témoigne auprès de nos familles, de nos amis, parce qu'on ne voit pas de changement, on voit pas de... Mais c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre de péché, de justice et de jugement. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est partager, c'est prier, c'est vivre une vie exemplaire, les aimer, mais on ne peut pas les convertir. Mais ce qui est remarquable, c'est que sur ces 144 000... il les a tous gardés. Alors cette marque qu'ils avaient sur le front, qu'est-ce que c'était? C'était pas un code barre, c'était quoi? C'est... C'est quoi?
Le nom de leur père.
Le nom de leur père. Le nom de Dieu, alors c'est peut-être, on n'est pas exactement sûr, c'est peut-être le tétragramme de Yahweh, celui qui est. Et ça doit être une raison de plus d'être persécuté. Tout le monde a un code barre, et puis vous avez marqué Dieu le Père, ou Yahweh, ou Jéhovah, en transcrivant. Mais ça, c'est une chose remarquable parce que l'agneau est aussi le grand berger. L'agneau, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde, c'est Jésus-Christ. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, disait Jean-Baptiste. Et c'est aussi le berger, celui qui prend soin des siens. Il va, dans Luc 15, 4, on peut regarder ensemble... quelques versets. Jésus leur disait une parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Et lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis, ses voisins, et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Dans la prière de Jésus à son Père, dans Jean 17, qu'on a beaucoup cité dimanche dernier, au verset 2, pardon, 17-12. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Parlant de Judas. Jean, un autre passage dans Jean aussi, avant, j'aurais dû citer en premier. Jean 10-28. Mais bon, 27, il dit: mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, c'est lui le grand berger donc. Et il leur dit, j'ajoute, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. J'ai toujours l'image d'un joueur de rugby à qui on a passé le ballon, qui est prêt à aller à marquer l'essai et qui met toute son énergie à bien tenir son ballon, à le protéger, à le garder, il va l'amener jusque dans l'embut. Et c'est un peu la même chose avec Jésus. Il va nous tenir, il va nous garder jusque à notre destination finale. Alors ça, ça pose un peu le problème de est-ce que si on est sauvé, est-ce qu'on peut perdre son salut ? Alors c'est un sujet inépuisable, quelque part, pour les hommes que nous sommes. Mais ma conviction, c'est que si nous avons peur d'être perdus, nous ne serons jamais perdus par Jésus. Si nous nous moquons d'être perdus ou pas par Jésus, ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment convertis. L'Esprit Saint n'est pas en nous, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de vital en nous. Et j'aime bien lorsque les gens me disent « j'ai peur d'avoir commis le péché impardonnable ». Je dis toujours, si vous avez peur, si ça vous inquiète, vous pouvez vous relaxer, ça veut dire que vous n'avez pas commis. Parce que ceux qui refusent le témoignage du Saint-Esprit, qui montre que Jésus est Seigneur, et Dieu, Fils de Dieu, Sauveur et Maître, ceux-là, ceux qui rejettent ce témoignage du Saint-Esprit, peu leur importe qu'ils soient avec ou sans Jésus, quelque part. Et donc, dès qu'une personne a le souci d'avoir perdu peut-être son salut, je dis, c'est un très bon signe que vous n'avez pas perdu. Alors, ce n'est pas une raison pour ne vivre n'importe comment, mais on va, si on est vraiment sauvé, on va avoir à cœur de plaire à Dieu, on va avoir à cœur de suivre l'agneau partout où il va. Ce qu'on verra plus tard. Il y a un autre passage dans Jude, juste un peu avant l'Apocalypse, Jude, verset 24. Je ne vous dis pas le chapitre, vous savez pourquoi ? Il n'y en a qu'un seul. Donc on peut dire Jude 1, 24, ou on peut dire Jude 24. C'est juste avant l'Apocalypse, entre les trois épîtres de Jean et l'Apocalypse. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Irréprochable. On a vu ce mot à la fin du passage que Élodie a lu. On va y revenir. Mais cette idée que si nous sommes sauvés, alors c'est vrai pour l'Église, nous serons au ciel, mais c'est vrai pour ces 144 000 qui, on va le voir, ne seront pas seuls, parce qu'il est dit qu'ils sont des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Prémices, c'est un mot un peu vieilli maintenant en français. Une meilleure expression, c'est les premiers fruits. Et ça veut dire, c'était lorsque les cultivateurs commençaient leur récolte, ils gardaient les premières récoltes, les premiers fruits, les premières gerbes, pour les donner comme une dîme à l'Éternel. C'est avec cette nourriture qu'ils faisaient soit des sacrifices qui brûlaient complètement, soit qu'ils donnaient de la nourriture aux prêtres qui n'avaient pas d'autre moyen de subsistance que de dépendre des fidèles qui, eux, travaillaient avec des animaux et des terrains à cultiver. Et donc les prémices, les premiers fruits, c'est le début d'une récolte. Donc là, au verset 4, il est dit qu'ils sont comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu, son désir, c'est toujours de sauver le plus grand nombre d'hommes. Nous, on aurait tendance des fois à dire, je suis sauvé, il y a tous ces hommes qui se conduisent très mal, j'ai pas envie qu'eux aussi soit au bénéfice du pardon et de l'amour de Dieu. Ça, c'est parce qu'on est impur, on est égoïste, on pense qu'on est quelque chose parce qu'on a été choisi par Dieu, alors qu'en fait, c'est simplement par la grâce qui nous a donné ce salut. Tout ce qu'on a eu le mérite de faire, c'est de le reconnaître, de l'admettre, de le recevoir. Et on n'a pas lieu de se vanter du tout, de quoi que ce soit. tout ce qu'on peut, on peut s'enorgueillir, c'est de la croix de Christ, nous dit Paul dans Galates. Le fait que Dieu se soit humilié jusqu'à mourir la mort la plus infamante pour voir notre salut. Il est dit, donc, il entendit, verset 2, du ciel une voix comme la voix, rappelez-vous, Jean a été translaté, il a été zappé au ciel. Après ces choses, il avait vu une porte ouverte dans le ciel, chapitre 4, verset 1. Et il avait entendu telle une trompette, une voix qui lui disait de monter ici, je te ferai voir ce qui doit arriver après ces choses, dans la suite. Et donc lui, il a une bonne place au ciel, il voit ce qui se passe sur la terre, il voit aussi ce qui se passe dans la salle du trône, où se trouve le trône de Dieu et de l'agneau. Il semble que, si on pense que l'agneau est descendu sur la montagne de Sion, que Jésus là fasse quelques mouvements, mais c'est le Fils de Dieu, c'est pas un problème pour lui. On sait qu'il était... Il était l'échelle de Jacob. Vous vous rappelez de Jacob qui dormait dans le désert et qui avait fait son rêve et qui voyait des anges qui montaient, qui descendaient sur une grande échelle qui rejoignait la terre, qui joignait la terre au ciel. Et en fait, cette échelle, c'est une illustration avant la lettre du rôle de Jésus lui-même. Jésus est préfiguré par cette échelle. Parce qu'il est le médiateur, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, l'homme Jésus. Et il peut être ce médiateur parce qu'il est à la fois Dieu, parfaitement Dieu, et il est à la fois parfaitement homme, 100% plus 100%. Ça nous dépasse, mais c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et on va revenir à cette perfection qui est essentielle pour ce qui se déroule là. Il chante un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Alors on peut penser que comme les prières montent vers des hommes, vers Dieu, de la fumée, de l'encens plus exactement, là aussi les chants de ce groupe de 140 000 personnes, là encore ce sont des juifs, on va revenir sur leur qualification. Ce chant, ils l'entendent jusque dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose, des fois, quand on se trouve dans une église ou dans un rassemblement et qu'on chante, j'aime bien m'imaginer au-dessus du lieu de rassemblement, puis de voir ces chants qui montent et m'imaginer que ces chants parviennent jusqu'à Dieu. Et ça, c'est une bonne chose de penser à ça pour éviter de chanter machinalement en se demandant « Tiens, je me demande si Nice va gagner son match cet après-midi contre Lorient ou pas. Mais si on imagine que nos chants, si on les chante de tout notre cœur, ils vont jusqu'à Dieu, ils vont aller bénir le cœur de Dieu. Personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc il est bien question de ces 144 000, ils sont définis là, encore une fois, les 144 000. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont différents des 144 000 du chapitre 7, encore une fois. Et c'est intéressant, on a l'impression que Il y a des chants pour chaque groupe de saints, de personnes sauvées. Les saints de l'Église, c'est-à-dire l'Église qui a été enlevée, au chapitre 5, verset 9, il était dit que... On reprend à partir du verset 8. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu étais immolé, tu as fait, plus loin verset 10, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Et donc il y a ce chant de l'Église au chapitre 7, verset 10. Il est dit que ces 144 000, à côté des 144 000, il y avait une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Ça, c'est chapitre 7, verset 9. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Ça, on pense que ce sont les saints qui sont sauvés pendant la période de la grande tribulation. Il en est question au chapitre 6. Et cela aussi, verset 10, il crie d'une voix forte. Certains disent que c'est un chant, le chant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et puis là, les 144 000 juifs ont leur propre chant aussi. Alors, verset 4, il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. On a vu au chapitre 7 que c'était des juifs, puisqu'il est précisé les tribus desquelles ils viennent, 12 000 de chaque tribu, tous marqués du sceau, qui fait qu'ils sont protégés malgré cette terrible période de la grande tribulation. Ce sont des hommes vierges, ils sont vierges, ils n'ont pas eu de rapport avec les femmes. Alors, on pourrait croire à la lecture de ce verset qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, que ça veut dire que la Bible parle des relations sexuelles comme quelque chose de qui souille, qui dégrade. C'est pas le cas du tout. La sexualité, c'est une création divine. C'est Dieu qui a inventé la sexualité. J'aime bien dire qu'il aurait pu faire que les hommes se reproduisent par bouturage. On coupe un bout de la dernière phalange du doigt, on met ça dans de la bonne terre, et hop, il y a un bébé qui arrive au bout de 9 mois. Alors, je vous dis pas, les gens comme les parents de Nancy qui ont eu 12 enfants, il leur resterait plus beaucoup de doigts. Mais c'est Dieu qui a inventé cette union physique, cette intimité intense. Et pour moi, c'est probablement pour être un avant-goût de la relation fusionnelle et complètement intime et complètement merveilleuse que Dieu veut avoir avec son peuple. Et donc, ils ne se sont pas souillés. Je pense que c'est parce qu'ils ont été appelés par Dieu à rester célibataires. Et c'est vrai que Paul disait qu'il souhaitait, même si on pense qu'il a été marié parce qu'il était membre du Sanhédrin, cette assemblée de notables religieux juifs qui faisaient la loi en matière de religion à Jérusalem, on pense qu'il avait sans doute perdu sa femme, qu'il était veuf, mais il disait que c'est formidable de ne pas être marié, dans le sens où on a toute liberté de servir sans avoir à prendre du temps pour s'occuper de la priorité d'une famille, d'une femme, d'enfants. Alors certains voient là-dedans quelque chose de spirituel, qui n'ont pas commis l'adultère avec le système du monde, mais je pense que ces 144 000, ce sont des juifs, des hommes juifs vierges. Et lorsque des témoins de Jéhovah viennent vous dire que vous pouvez faire partie qu'ils font partie, par exemple, des 144 000, vous pouvez leur demander, alors vous êtes vierge et vous êtes faites partie de quelle tribu? Leur demander un peu, les pousser, leur montrer ces passages. Ils ont été rachetés d'entre les hommes. Encore une fois, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ce rachat qui est offert à tous, il n'est valable, il ne prend effet que pour ceux qui viennent à Dieu lui-même. Ils ont des qualités, donc ils suivent l'agneau partout où il va. Est-ce que moi, je fais tout ce que je fais, c'est de suivre le Seigneur, ou est-ce que je vais voir des fois moi-même Est-ce que je suis mes propres désirs, mes propres envies dans la vie, dans ce que je veux faire, ou est-ce que je consacre et est-ce que je ma volonté, est-ce que je consacre ma volonté à être en accord avec la volonté de Dieu ou pas? On aime bien penser qu'on le fait, mais bien souvent, si on réalise, en fait, on fait des choses qui ne sont pas nécessairement en accord avec sa volonté. Alors, on a toujours l'excuse de dire que c'est pas facile de savoir exactement quelle est sa volonté. Et Dieu nous dit qu'il y a déjà sa parole qui nous donne certaines. Il y a plein d'endroits dans la Bible qui disent telle est la volonté de Dieu. C'est ainsi, par exemple, de donner des remerciements dans toute chose. Telle est à votre égard la volonté de Dieu, de donner des remerciements dans 2 Thessaloniciens. Il y a plein de passages. Et lorsque vous lisez votre Bible et que vous trouvez quelque chose qui dit telle est la volonté de Dieu, vous pouvez l'encadrer, souligner, marquer le numéro de la page au début de la Bible, mais ces choses-là, déjà, obéir à ces choses. Ils ne disent pas de mensonges. Dans leur bouche, il ne s'est jamais trouvé de mensonge. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits par eux-mêmes, mais c'est pas dans leur grande consécration. On a fait un peu d'évangélisation avec Manu dimanche après-midi sur la place Masséna. Et on pose la question aux gens de savoir est-ce qu'il vous est arrivé de mentir quelquefois? Et la plupart des gens ont l'honnêteté de répondre oui, ça m'arrive. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voler quelque chose? Non. Des petites choses, un cahier, des feuilles blanches, un stylo au bureau? Oui. Et on leur montre qu'en fait ils sont des pêcheurs. Ils sont des voleurs, des menteurs, ils sont même adultères dans leur cœur parce qu'ils ont regardé des personnes de l'autre sexe avec du désir dans leur cœur. Et ainsi de suite, on leur montre qu'ils ont besoin d'être. S'ils vont être jugés par les 10 commandements, ils ne vont pas s'en sortir. Et ces 144 000, aussi consacrés soient-ils, ils ne sont pas parfaits, mais par la force de Dieu. Ils arrivent à être irréprochables et c'est pas ça qui va leur mériter leur salut, mais c'est parce qu'ils sont transformés par l'amour de Dieu qu'ils deviennent de plus en plus semblables à Christ et qu'ils le suivent partout. Et nous aussi, nous pouvons imiter Paul, imiter Jésus, imiter ceux qui nous ont précédés dans la démarche chrétienne. Et avec l'aide de Dieu, de Jésus-Christ, demander son aide, on peut vaincre tous nos péchés, on n'est plus obligé de tomber dans le péché maintenant. On est libéré de la tyrannie du péché par le sacrifice de Jésus. On va lire. Si, est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Je vous avais demandé de. Je vous demande de m'excuser pour vous avoir envoyé les questions hier soir. Quoi ? Sur les 5 premiers versets, oui. Je vous avais envoyé ça par email, je crois que j'ai oublié de. Tu n'as pas dû le recevoir. Et parmi les qualités qui sont montrées ici, lesquelles vous aimeriez voir davantage dans votre vie. Alors, je ne vais pas vous demander, mais c'est toujours bien de, quand vous lisez la Bible, de voir ce que ça vous dit personnellement. On a vite fait de dire oh là là, les grands pécheurs du dehors, ces gens qui ne se repentent pas. Mais tant que j'en reste là, c'est que je n'ai pas pris assez de temps devant Dieu pour laisser la parole me labourer, me transformer, me montrer mon péché. Donc je vous encourage toujours, lorsque vous lisez la Bible, à essayer de tirer une leçon personnelle de ce que vous lisez, pas simplement de penser que c'est intéressant, anecdotique, historique, mais qu'est-ce que Dieu me dit. Si quelqu'un veut bien lire les versets 6 à 13 à haute voix, On a Élodie qui est prête à le faire. Si personne d'autre, il y a encore d'autres passages. Si vous avez hésité cette fois-ci, la prochaine fois, répondez vite. Vas-y, Élodie.
Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduit. Un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
Amen. On va s'arrêter là. On va avoir dans le reste de ce chapitre trois anges qui vont venir en succession rapide pour faire différentes actions. Le premier vole au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est impressionnant d'imaginer cette vision d'un ange qui va, un peu comme des fois de l'été, il y a des avions qui passent dans le ciel en traînant une banderole qui dit « Ce soir, grande fête à la siesta !» Et cet ange sera visible de toute la terre. C'est pas... Il a un évangile éternel qu'il va annoncer à tout le monde. Pas de barrière de langue, il n'y a pas de barrière de distance. Qu'est-ce que l'évangile ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Est-ce que vous vous rappelez ?
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle, hein, ça vient du grec, ça veut dire simplement bonne nouvelle. Paris, sur la ligne entre Saint-Mandé et Ballard, il y a la station des Filles du Calvaire. Puis un peu plus loin, il y a la station Bonne Nouvelle. Et j'ai toujours pensé que c'était sans doute des chrétiens engagés qui avaient choisi ces noms. Souvent, c'était des noms qui correspondaient à des églises qui existaient sur la surface du métro. Mais ils n'ont pas eu peur de prendre aujourd'hui. On aurait dit, ah non, c'est trop religieux, on va pas prendre un nom à consonance biblique. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. On en a parlé encore dimanche dernier. C'est la bonne nouvelle que Paul condense en disant « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Puis après, il ajoute qu'il a été vu par les apôtres et par plus de 500 personnes, dont quelques-unes étaient encore vivantes au moment où il écrivait ces choses et auxquelles les gens pouvaient demander confirmation s'ils en avaient besoin, s'ils en éprouvaient le besoin. C'est la bonne nouvelle C'était la nouvelle que Jésus est venu mourir pour nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle, que Dieu a accepté ce sacrifice et que nous pouvons avoir la vie éternelle si nous suivons, nous acceptons ce sacrifice de Jésus. Il n'y a qu'un seul évangile. Des fois, Paul parle de son évangile, mais ça veut dire l'évangile pour lequel il donne sa vie, auquel il consacre sa vie.
Mais Pierre, alors pourquoi il a précisé l'évangile éternel? Pourquoi, si on a qu'un, tu vois, on précise, on sait qu'il est éternel.
Voilà. Alors, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament où le mot évangile est qualifié par exemple, au début, dans les paraboles de Matthieu, il est question de l'évangile du royaume. Paul se plaignait des Galates qui avaient appris la vérité. Et il leur disait, verset 6 du chapitre 1 de Galates, Galates 1, 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Au lieu d'avoir un évangile de la grâce, c'est une autre qualification, l'évangile de la grâce. C'est toujours le même évangile, mais en insistant sur un de ses aspects. L'évangile du royaume, c'est l'évangile, la bonne nouvelle qui nous donne accès au royaume de Dieu. L'évangile de la grâce, c'est l'évangile qui nous montre que Dieu nous fait grâce, que tout ce qu'il nous donne, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce qu'il a décidé de nous le donner sans que nous le méritions. Et là, ils étaient prêts à passer à un autre évangile. Et ils disaient, verset 7, « Non pas qu'il y en ait un autre. » Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un, mais qu'il y en ait un autre, mais qu'il y a des gens qui vous... Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Donc ce même évangile, c'est l'évangile du Christ, c'est l'évangile du royaume, c'est l'évangile de la grâce. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous annonçons, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème.
Moi, je ne sais pas, je sais
qu'il n'y
en a qu'un.
Oui, non.
Ils disent un évangile à la sonate. Et en plus, ils disent éternel. Tu vois pourquoi pas l'évangile alors?
Alors, c'est pour choquer, pour nous montrer, je pense, que c'est un évangile qui a une portée éternelle.
Oui, dans ma Bible,
c'est l'évangile.
Voilà. Et souvent, ça dépend des textes, des manuscrits qui ont été utilisés, mais ce qui compte, c'est qu'il y a un évangile à annoncer, il n'y en a qu'un seul, qui est l'évangile du royaume, l'évangile de la grâce, l'évangile du Christ, qui est l'évangile de Paul, qui est l'évangile éternel. Et on va y revenir par opposition à ceux qui sont en enfer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais on vient de parler de l'enfer dans le passage que Élodie a lu. Il y a beaucoup d'informations, on n'a pas des informations complètes, on n'a pas de vidéo exactement sur ce qui se passe en enfer. On a une représentation qui date des vieilles mythologies où Satan, ce serait comme le gars qui est sur le Tour de France, qui est habillé en pyjama rouge, qui a une fourche à la main, qui a des cornes sur la tête. Ça, c'est de la mythologie. Satan est un être de toute beauté. C'était un ange d'une grande beauté, très intelligent. Et son but, c'est de détourner l'adoration qui revient à Dieu pour la porter sur lui. C'est l'orgueil, c'est l'envie de se faire passer comme Dieu qui a causé sa chute. Il en est question dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, où il est question du roi de Tyre, qui est ce roi qui a voulu se faire adorer, qui était beau déjà, mais qui a voulu se faire adorer comme Dieu. On peut aller voir, si vous voulez, dans Ésaïe. Alors, pour se rappeler, c'est Ésaïe 14, vous multipliez 14 par 2, et vous tombez sur Ézéchiel 28. Comme ça, vous pouvez dire à vos amis, je vais te parler du diable. Waouh! Ésaïe 14. Verset Donc c'est le passage qui s'appelle une prophétie contre le roi de Babylone, verset 4 du chapitre 14 d'Ésaïe. Il dit, tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone. Et puis un peu plus loin, donc on peut penser au début qu'il s'agit d'un roi historique à l'époque qui était responsable du gouvernement, de la gestion de Babylone. Il y a cette dimension, mais il y a une dimension prophétique et diabolique lorsqu'il dit au verset 11 « Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes, L-U-T-H, de tes guitares. Sous toi s'étend une couche de vermine et les vers sont ta couverture. Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Là, on est en plein dans la description de ce que Satan a fait. Il a voulu se faire aussi puissant que Dieu par orgueil. C'est le plus terrible des péchés que le péché de l'orgueil. Et dans Ézéchiel 28, il est question, on ne parle plus du roi de Babylone, on parle de la chute du roi de Tyr. Et on peut lire à partir du verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr, qui était une ville au nord d'Israël, sur la Méditerranée, Sidon et Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau, Ézéchiel 28, 12, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Je vous rappelle que c'était le serpent, c'était en fait Satan qui avait pris cet aspect. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, une liste des pierres précieuses dont on va parler encore dans l'Apocalypse. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'était le chef de la louange. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu de pierres ardentes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Il avait bien commencé, mais par l'importance de ton commerce, verset 16, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir au milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante, tu ne seras plus jamais rien. Ça, c'est la destinée finale de Satan qui a semé la désolation sur la terre. Et on voit qu'en fait, l'enfer, certains disent que l'enfer, c'est impensable de penser que Dieu conserverait des hommes dans de telles souffrances. On les voit, on va reprendre les versets. L'ange qui annonçait l'évangile. Entre parenthèses, certains groupes chrétiens, disent qu'il faut qu'on ramène le roi en disant que on peut accélérer les choses, hâter le retour de Christ en mobilisant des mouvements missionnaires sur toute la surface de la terre, et que parce qu'il est dit que d'abord c'est par exemple le verset Matthieu 24, 14 qui dit que l'évangile sera annoncé dans toute la terre et après viendra la fin. retrouver ce même concept dans Marc 13, 10. Donc la fin, elle va venir lorsque l'évangile aura été annoncé sur toute la terre. Et certains chrétiens se disent, il faut qu'on y aille parce qu'on ne peut pas laisser la terre comme ça. Et ça, ce n'est pas biblique, parce qu'en fait, on voit qu'ici, Dieu va utiliser un ange pour finir la tâche. Cet ange va annoncer l'évangile sur toute la terre, à toutes les tribus, à toutes les langues, en disant, craignez le Dieu, donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue. Prosternez-vous devant celui qui a tout créé. La théorie de l'évolution, peu de personnes s'en réclameront à ce moment-là. Tout le monde va devenir créationniste. Ils vont, du moins pour ceux qui ne vont pas se cacher dans les rochers pour lutter contre l'influence de Dieu. Donc ça, c'est le premier ange. Le deuxième ange, lui, il parle de Babylone la Grande qui est tombée, qui est vraiment tombée. Elle qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Ça, on en reparlera plus avant dans le chapitre 17, la chute de Babylone, qui peut représenter un faux système politique et religieux qui éloigne les hommes de Dieu. Le système de gouvernement sur la surface de la terre qu'on a en ce moment, on peut facilement dire que ce qui compte, c'est l'argent, c'est les finances, c'est le commerce, la religion. Peut-être une religion œcuménique fera partie de cette Babylone à la fois religieuse et politique. Mais ce monde symbolisé par cette Babylone, il va tomber. C'est elle qui fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Le monde tel qu'il est nous conduit à rejeter Dieu, à vivre dans l'immoralité, à vivre pour l'argent, à vivre pour les plaisirs. Elle va être jugée, elle va tomber. Le troisième ange dit que, d'une voix forte toujours, tout le monde comprend, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, donc c'est ces choses dont on a parlé avec l'antéchrist, le faux prophète et les marques à scanner pour le commerce, lui aussi, si donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est les gens se prosternent devant l'antéchrist qui va venir régner à Jérusalem au milieu de la grande tribulation. Ils vont se prosterner, ils vont recevoir une marque sur leur front ou sur leur main. Il est dit que ces personnes vont boire elles aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est des paroles très terrifiantes en quelque sorte. On a l'habitude de penser à Dieu comme ce Dieu d'amour, de grâce, mais c'est aussi un Dieu saint qui peut se montrer terrible dans sa sainteté, dans sa colère contre ceux qui ne se repentent pas. Et souvent les gens disent c'est pas possible que Dieu laisse des gens en enfer, parce qu'il est dit ils vont être tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ça nous indique ça, et c'est une chose terrible auquel on ne pense pas, c'est que en enfer on ne sera pas privé de la présence de Dieu, on va être privé de son amour et de sa grâce, parce que là il va être à même de voir l'agneau. Ils vont être tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc c'est pas quelque chose dont Dieu va dire j'ai trop honte de faire des choses pareilles, je veux pas regarder, ça va être pas bon, être bon pour ma campagne publicitaire ou quoi que ce soit, politique. C'est quelque chose qu'il donne, et il est dit que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Ce verset 11, je vous ai demandé de le mémoriser. C'est quelque chose qui décrit de façon saisissante et terrifiante ce que c'est que l'enfer. Alors, à ceux qui disent que ce n'est pas possible de penser qu'un Dieu d'amour puisse imposer à des gens de souffrir ainsi éternellement. C'est là que le mot d'évangile éternel rejoint le sort de ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui rejettent l'évangile éternel, ils sont éternellement dans la souffrance. Alors comment c'est possible? En fait, si on approche ça au niveau d'une dette à payer, imaginez que vous causiez un accident en vous garant sur l'autoroute et qu'il y ait un carambolage, qu'il y ait des autocars de passagers, qu'il y ait d'un seul coup vous retrouviez responsable de 150 morts, de 200 voitures encastrées les unes dans les autres, et vous êtes jugé responsable. On estime que la vie de chaque personne représente 10 millions d'euros. C'est ce qu'ils font des fois dans les catastrophes aériennes, ou 5 millions, ça dépend, suivant les finances. Et c'est à vous de payer ça. Et vous, vous avez un boulot où vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Ça va vous prendre une éternité à pouvoir rembourser cette somme. Si c'est Bill Gates qui garde mal sa voiture sur l'autoroute et qui doit payer tous ses millions, il sort de sa voiture et il fait un chèque. C'est fini. Ça a duré que quelques instants. La dette du péché de l'homme est terrible. Nous, on a l'impression que bon, tout le monde le fait, c'est pas bien grave. Jésus, lui, peut payer parce qu'il est parfait. Il est le Bill Gates de la moralité, de la justice divine. Il a tout payé en ayant souffert sur la croix. C'est terminé. Il est dit, lorsqu'il est mort, qu'il a rendu l'âme, il a dit, tout est payé. Mais si vous êtes quelqu'un d'imparfait, si vous êtes un pécheur, vous n'allez pas, votre souffrance, votre mort ne va pas suffire, il va falloir que ça dure l'éternité. Alors, libre à vous d'accepter cette analogie, mais pour moi, elle justifie le fait que les hommes qui ne veulent pas être au bénéfice du chèque de Bill Gates, ils vont avoir à trimer toute l'éternité dans la souffrance. Et donc, c'est ce que nous apprend la parole. Alors, n'allez pas utiliser ça comme une justification. C'est juste une image pour vous faire comprendre que l'homme qui a rejeté Dieu, qui veut se faire sauver par ses œuvres, il va falloir qu'il souffre une éternité. Alors que Jésus a fait, parce qu'il était parfait, il a donné le salut aux hommes par ce sacrifice. Et si nous l'acceptons, nous sommes au bénéfice de ce chèque de Bill Gates, entre guillemets. Il dit au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. On avait vu ça, je crois, au chapitre 13, verset 10. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Cette idée qu'il faut, nous qui sommes qui croyons en Jésus-Christ, il faut que nous accrochions à la foi. On ne peut pas laisser tomber. On doit persévérer dans la foi. Alors ça, c'est souvent un débat théologique. Savoir si on est sauvé, est-ce qu'on a besoin de persévérer? Peu importe vraiment la logique théologique. Ce qui compte, c'est d'être sauvé et de faire tous ses efforts pour ne pas se laisser éloigner de Dieu. C'est ce que je vois ici comme la persévérance des saints. Garder les commandements, garder la foi en Jésus. Et puis il entendit du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, qu'à leurs œuvres les suivent. » Ça, on peut penser que Dieu nous l'a fait savoir, pendant le temps de l'Église même, de savoir que quand on meurt, si nous sommes en Christ, c'est sûr que c'est triste pour nos familles, les êtres chers qui les sont laissés derrière. Mais pour la personne qui meurt, comme Paul le disait dans Philippiens, je préfère être mort, parce que ça veut dire que je suis avec Dieu, plutôt que de rester à souffrir sur la terre. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur dès à présent, ils vont pouvoir se reposer de leurs travaux et nos œuvres vont nous suivre. Les bonnes œuvres que nous avons faites, c'est ça qui va nous valoir de recevoir des couronnes que l'on présentera devant le trône. Mais on a une saisissante vision de ce que peut être une peine éternelle par opposition à avoir accepté un évangile éternel et être pour toujours avec Dieu au bénéfice de son amour, de sa grâce, de souffrir pour une éternité. Et je me souviens, lorsque nous étions étudiants dans une école biblique au Canada, il y avait un jeune missionnaire qui était passé. Il travaillait en Turquie et il avait beaucoup d'émotion en racontant qu'il voyait plein de villages, de petits villages en Turquie, et il voyait que ces gens étaient voués à être dans cet tourment éternel s'il n'y avait pas des missionnaires qui allaient et qui venaient leur parler du salut en Jésus-Christ. On a parlé de 144 000 témoins juifs. J'étais surpris de trouver des statistiques qui disent qu'en fait, aujourd'hui, dans le monde entier, le nombre de missionnaires ne dépasse pas, c'est entre 50 000 et 100 000 pour une population de bientôt 7 milliards de gens qui meurent tous les jours sans Christ et pour lesquels la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, sans repos, ni jour ni nuit, ceux qui se sont prosternés, qui ont accepté le système du monde. Voilà, s'il y a des questions, des remarques, on va prendre une pause et on reviendra pour la fin du chapitre 14 et chapitre 15. 14-14 à 14-20.
J'ai regardé et voici une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête, une fossile tranchante. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance la faucille et moissonne l'heure qui est venue de moissonner. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée, qui passe sa faucille sur la terre, qui attire terre puis moissonner. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, il avait lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait pouvoir sur le feu est sorti de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et mon ange l'éclate de la vigne de la terre car ses raisins sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans le sanctuaire de la fureur de Dieu. Et la cuve fut trouvée hors de la ville, ils sont sortis de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une tendue de 1600 slaves. »
Merci. Donc là, on a deux épisodes. Il y a une moisson et une vendange. Au début du verset 14, je regardais, voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. À qui ça vous fait penser, ça? Jésus? D'autres propositions? Non, on pense, la plupart des commentateurs s'accordent à dire que là, c'est la description du fils d'homme qui remonte au livre de Daniel, à la prophétie de Daniel. C'était là qu'il était, Daniel 7, 13. Et c'est un terme que Jésus a utilisé pour parler de lui, le fils de l'homme. C'était un de ses titres, Daniel 7, 12, 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, je lis ça dans Daniel, vous n'avez pas besoin de vous y tourner. Voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Et C'est un titre qui se retrouve dans tout le Nouveau Testament, qui désigne Jésus-Christ. Il y a un ange qui sort du temple. Le temple terrestre, le tabernacle, il est dit que c'est une vision des choses à venir. Donc on pense qu'il y a un temple dans le ciel aussi. Et il dit il y a une moisson qui est faite, lance ta faucille et moissonne, l'heure est venue de moissonner car la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Et puis il y a au verset 17 un autre ange qui lui a une faucille tranchante qu'il lance sur la terre. Un ange qui avait le pouvoir sur le feu, verset 18, pour faire une vendange, pour faire une moisson des grappes de raisin. Et lui, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, du sang sorti de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de l'équivalent de 250-300 km. Un stade, c'était la distance d'une piste, un peu comme dans un stade aujourd'hui, où on fait 100 mètres et puis 400 mètres si on fait un tour complet. Ça fait 1600 fois près de 181 mètres, 185 mètres. Donc une grande distance de 200 à 300 km. Et là, certains, je pense que c'est justifié de voir, voilà une vision de la bataille d'Armageddon. À la fin des temps, lorsque Jésus revient et que les nations de la terre se liguent contre lui, les nations du nord, on pense que c'est la Russie qui vient attaquer aussi, que de l'est, il y a des myriades, des dizaines, des millions, des centaines de milliers de soldats. On peut imaginer que ce serait peut-être des soldats qui viendraient de Chine, même s'il y a un réveil en Chine, c'est pas nécessairement. Mais ça vient de l'Est. Et donc, cette vision de la bataille d'Armageddon, encore dans cette grande vallée, qui. Et donc, des millions de morts, c'est comparé à une vendange. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des vendanges, qui ont déjà coupé des raisins. Quand j'étais étudiant dans le midi de la France, à la fin de l'été, on pouvait aller travailler, faire les vendanges. C'était un boulot, il y avait plein, le Crous proposait plein de travail comme ça. Et c'est vrai qu'on ramassait toute la journée, ça faisait très mal au dos. On ramassait des grappes de raisins qui poussent pratiquement par terre. Maintenant, ils ont des machines, c'est mieux fait. Mais après, tout ce raisin était amené à la centrale, à la coopérative viticole. Et on versait ces brouettes et ces chariots de grappes qui étaient broyés par une lame sans fin qui tournait. Et on a vraiment cette vision-là du sang qui ressort de toutes ces troupes qui sont détruites, tuées. Alors, certains, je pense aussi de ce côté, voient en fait deux moissons, une moisson et une vendange. La moisson nous fait penser aux évangiles où il dit que Jean disait que la moisson était blanche pour être recueillie, qu'il fallait prier pour que le Seigneur de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Le terme de moisson a une connotation positive dans la Bible et ça justifierait le fait de dire que ça, c'est une récolte des gens qui ont été sauvés et qui se retrouvent, qui sont accueillis par Jésus lui-même. Alors que l'autre, c'est la vendange et la moisson des injustes. C'est l'horrible image de ces grappes pressées, écrasées. Et lorsqu'il est dit que le sang sorti de la cuve jusqu'au mort des chevaux. Le mort des chevaux, c'est le petit bâton, la petite pièce métallique qu'ils mordent. donc ils se trouvent à la hauteur de leur mâchoire, donc c'est à peu près à 1,20 m de hauteur. Et d'imaginer que sur cette surface de 300 km, il y ait tout ce sang. Alors peut-être que c'était seulement le sang qui est giclé, qui tachait les chevaux au visage. Mais c'est un carnage terrible. Et on pense que c'est la bataille d'Armageddon. S'il y a... S'il y a 200 millions de... Ça, c'est dans d'autres passages, les questions de myriades, de myriades. Une myriade, c'était 10 000. Alors après, c'est peut-être pas nécessairement des mathématiques très précises. Mais certains se sont amusés ou se sont intéressés à faire des calculs. Et en fait, pour que le sang de 200 millions d'hommes n'arriverait sans doute pas sur cette surface à monter jusqu'à 1,20 m. Mais quelqu'un a remarqué qu'en fait, il fallait rajouter à cette masse des hommes qui étaient morts, il fallait rajouter aussi tous les chevaux, les armes, etc. Et en fait, c'est probable, c'est possible que ce carnage, une bataille réelle, donne autant de sang, autant de morts. C'est l'Apocalypse. Encore une fois, c'est pas pour les chrétiens, c'est pour ceux qui ont refusé de se repentir. L'enfer dont nous avons parlé, c'est bon de se rappeler qu'il est... Dieu ne l'a jamais... Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est 2 Pierre 3,9. Dans Matthieu 25, 41, il disait que l'enfer avait été préparé pour le diable et ses démons. Et que si on se retrouve là-bas, c'est parce qu'on refuse de suivre Jésus et qu'on suit justement le diable et ses démons. Satan a essayé de faire réaliser l'horreur de l'enfer ou de l'éternité de l'enfer. Et en particulier un auteur qui disait que si toute la terre était comme une grosse boule de sable et qu'un oiseau pique un grain de sable à la fois, quand on est en enfer, il faut réaliser que quand tous ces grains de sable qui constitueraient la terre auraient été pris par un oiseau qui piquerait un grain à la fois, on n'aurait fait que commencer le début de l'enfer. Pour dire, est-ce que ça veut dire l'éternité de l'éternité, cette punition éternelle qui nous paraît impossible à envisager, la Bible l'annonce clairement et on doit vraiment avoir dans le... C'est souvent difficile pour nous, vivant au 21e siècle, de penser que les gens qui ne connaissent pas Jésus sont dans un tel danger de mort éternelle. On a l'habitude, parce que justement on est au bénéfice des valeurs judéo-chrétiennes de merci, de grâce, de pitié, d'aide, de pardon, que ça puisse vraiment exister. Et quand on a fait un peu de témoignage dimanche, mais d'avoir cette vision que ces gens qui peuvent vous paraître riches, heureux, en bonne santé, et vous, vous n'êtes pas très bien, vous avez perdu votre travail, mais en fait, ils ont un sort terrible qui les attend si on ne leur parle pas de Jésus. Tant qu'on a... On n'a pas ce sentiment d'amour pour les gens et ce sentiment d'urgence, on ne va pas être tellement motivé par l'évangélisation. On ne va pas. Et c'est. On se dit, on commence et puis quelqu'un d'autre fera le travail, mais les hommes qui ont fait le plus pour Dieu dans l'histoire, ce n'est pas ceux qui ont vécu pour la terre, c'est ceux qui savaient qu'il y avait une éternité après et qui ont vécu leur vie sur terre en fonction de cette éternité qui arrive derrière. On va voir, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a rapidement regardé? Quelqu'un va lire tout le chapitre 15. Qui veut lire tout le chapitre 15? Jonathan, tu veux bien?
Je peux lire.
Tu vois, c'est clair?
Oui.
Oui. Ou Nathan, un des deux.
Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient cette fléau, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les arcs de Dieu. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur de Dieu Tout-Puissant, tu vois son juste et véritable roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un linge pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent.
Merci. Donc là, c'est un peu un interlude avant les sept coupes du chapitre 16 qui font suite donc d'abord au sceau, aux trompettes dont on. Il voit dans le ciel, donc c'est toujours Jean qui parle, qui raconte la prophétie, la vision. Un autre signe grand et admirable, il y a sept anges qui tiennent sept plaies. Ça rappelle les plaies qui ont frappé l'Égypte à l'époque de Moïse, lorsque le pharaon ne voulait pas laisser partir son peuple. Il parle d'un autre signe grand et admirable. Jésus a donné trois signes comme signe de son retour imminent. Vous pouvez noter Matthieu 24, 32, c'était le signe du figuier qui reverdissait. Ça, c'est le symbole du renouveau d'Israël qui est redevenu une nation en 1948. Donc il n'y a pas très longtemps. Et le fait que Israël est souvent identifié à un figuier dans la parabole, et ce figuier qui reverdit, c'est Israël qui se réinstalle et qui commence à revivre en tant que nation. Dans Matthieu 24, 37, 39, un autre signe, c'est le signe de l'inconscience de l'homme semblable à celle du temps de Noé. Il est dit dans ce passage de Matthieu 24, 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, l'expression de Daniel dont on a parlé, pour désigner Jésus-Christ. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc ça, c'est un deuxième signe. Lorsqu'on voit les gens faire la fête et vivre comme s'il n'y avait aucun danger, aucune menace à l'horizon, c'est un des signes du retour de Christ. Et puis, dans verset 30, c'est le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel. On en avait parlé. Matthieu 24, 30, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Donc ça, c'est trois signes qui indiquent le retour imminent de Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse, il y a trois signes qui indiquent la fin des temps aussi, le retour de Jésus-Christ dans la gloire pour régner sur la terre. Alors, on l'avait vu au chapitre 13, c'était un signe, chapitre 12, un grand signe apparu, c'est la femme Israël qui va donner naissance au fils. C'est Apocalypse 12, 1 et 2, verset 5 aussi. Le diable ou dragon qui va persécuter la femme, persécuter Israël. Ça, c'est l'Apocalypse 12, 3. Encore une fois, il y a un enseignement clair dans la Bible, c'est que Dieu n'a pas fini avec son peuple d'Israël. Il avait choisi ce peuple pour atterrir dans la race humaine. Il avait le projet de s'incarner. Je dis qu'il aurait pu choisir les Corses, les Bretons, les Malgaches, mais il a choisi d'arriver par ces gens qui habitaient là, en terre promise, ou qui allaient aller en terre promise. Et il a un plan, quand on lit notamment Romains 9, 10 et 11, les chapitres 9 et 10 et 11 de Romains, on voit que Dieu a toujours un plan à accomplir pour son peuple choisi. Lorsqu'il est question des élus dans le Nouveau Testament, souvent ça fait référence à Israël, pas au sein de l'Église. Et quand on voit l'acharnement dans l'histoire sur le peuple juif, on voit qu'en fait il y a une opposition diabolique, parce que c'est par le peuple juif que devait arriver le sauveur de l'humanité. Donc c'est Satan qui a inspiré les massacres des enfants dont il est question dans Matthieu, même avant, dans les sages-femmes qui faisaient mourir les mâles dans le peuple juif. C'est là que Moïse a été caché, a échappé à ça. La Shoah. Il y a aujourd'hui des gens très sérieux qui prétendent, ce qu'on appelle les révisionnistes, qui prétendent que l'Holocauste en Allemagne n'a pas existé, que ça a été mis en scène. Sans doute les mêmes qui disent qu'on n'est pas allé sur la Lune, qu'on a fait ça en studio. Ils ont le désir de la théorie de la conspiration dans tous les domaines. Il se passe quelque chose à Toulouse avec un islamiste, il y a une conspiration, on ne lit pas tout, un peu comme Anne Roumanoff, il se passe des choses, etc. Mais ne vous laissez jamais embrigader par des gens qui vous disent qu'il n'y a pas eu de persécution des Juifs dans les camps de concentration. Ça, c'est un mensonge ignoble et énorme. Mais des fois, les plus gros mensonges ont des chances de passer. Et le fait que Dieu a permis ça, c'était peut-être une façon pour lui d'accomplir la prophétie que le peuple d'Israël allait revenir en terre promise, en terre d'Israël, parce qu'il y a eu une telle émotion dans le monde entier qui a été à l'encontre de l'antisémitisme que Satan a inspiré dans le monde depuis des siècles. Et le fait qu'il y ait eu cette Shoah, qu'il y ait eu cette Holocauste, a tellement ému l'opinion que les nations, en 1948, la SDN, ont voté pour l'instauration de l'État d'Israël. C'est passé à peu de choses, mais Dieu a permis que l'État d'Israël se reconstitue, et Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Nous sommes au bénéfice du peuple d'Israël qui a gardé les oracles de Dieu. C'est eux qui ont gardé la Bible, l'Ancien Testament essentiellement. Le Nouveau Testament a été écrit en grande majorité par des Juifs, à part peut-être Luc qui était grec et qui était un des apôtres, qui était le médecin qui a travaillé avec Paul et Pierre, qui connaissait l'évangile et qui est un témoin oculaire quand on lit le livre des Actes. Et donc, ces Juifs, méfiez-vous des gens qui vous encouragent à la haine contre les Juifs. Alors, c'est sûr que le peuple juif de la Bible n'est pas nécessairement le gouvernement israélien en ce moment, que toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement israélien sont justifiées ou justifiables. Ce n'est plus un peuple religieux. Officiellement, ils n'ont pas de religion d'État. Il y a des gens qui vivent en Israël qui ne croient pas en Dieu, d'autres qui se rattachent aux traditions parce que ça leur donne une identité formidable et qu'ils aiment ça, mais Dieu ne compte pas pour eux. De l'autre côté, vous avez des gens qui croient à la Torah, qui attendent encore leur Messie, et à l'extrême, vous avez des chrétiens, des juifs pour Jésus, il y a même une association qui porte ce nom, qui annonce aux juifs que le Messie qui est attendu, il est déjà arrivé. Et c'est tout ça pour parler de la persécution du peuple d'Israël. C'est un des signes du retour de Jésus dans la gloire. Et puis le dernier signe, c'est le mot signe qui apparaît ici au chapitre 15. Je vis dans le ciel un autre signe, c'est les sept anges qui se préparent à frapper le monde par les derniers fléaux de la colère de Dieu. Ils vont être déversés par des coupes. Là, j'ai lu qu'en fait, souvent on a l'idée que c'est plutôt un bol, mais une coupe, c'était quelque chose d'assez évasé, d'assez plat, et il ne fallait pas grand-chose pour faire sortir le contenu. Donc toute la colère de Dieu qui est contenue dans ces coupes va facilement sortir dès le moment qu'ils recevront l'ordre au chapitre 16, verset 1, « Versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. Hein ?» Il est question d'une mer de cristal, verset 2, mêlée de feu, les vainqueurs de la bête, de son image et de son sont debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. La mer le mot de mer, alors bien sûr en Israël il n'y a qu'une grande mer, c'est la mer de Méditerranée. Souvent il est question de la mer qui se trouve devant le tabernacle, c'était le nom qu'on donnait au grand bol, presque une piscine, un grand réservoir en airain, en acier, en laiton, en cuivre, mêlé de fer, qui était posé devant le temple, devant l'entrée du temple lui-même, devant le saint lieu, le saint des saints qui se trouvait dans le parvis. C'est là que les prêtres faisaient leurs ablutions, qu'ils se lavaient avant, de façon rituelle, avant de toucher d'offrir les sacrifices des animaux. Mais c'est souvent, dans l'Apocalypse, le symbole d'une multitude de monde. Quand vous voyez une grande foule, c'est un peu comme la mer, ça va à perte de vue, ça ondule un peu, ça bouge, mais on ne voit pas les personnes en particulier. Et cette mer, surtout si elle est calme, c'est les gens qui sont devant Dieu, qui adorent Dieu, ça peut être une image de ça. Dans le sanctuaire, là, il y a le sanctuaire qui est ouvert du dans le verset 5, c'est dans le ciel. Donc il y a un temple, un tabernacle dans le ciel. Et c'est de là que vont sortir ces sept anges qui vont se tenir prêts. Ils chantent un chant, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, dans...
La harpe.
Oui.
Ça me rappelle aussi le chapitre 14 qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi la harpe est tellement... Est-ce symbolique, quelque chose de spécial, la harpe?
Je n'ai pas rencontré de passage expliquant que ce serait symbolique. C'était un peu la guitare de l'époque, quoi. C'était pas nécessairement des harpes très, très lourdes et très hautes qu'il faut trois personnes pour les bouger. Il faut plusieurs personnages pour la bouger. C'était un instrument un peu comme la harpe de David. Le lac de Tibériade s'appelle le lac de Génézaret. Ça veut dire c'est la forme de la Kinérette. C'est la forme d'une petite harpe. Le nom Kinérette veut dire harpe aussi en hébreu. Et donc, ils chantent le cantique de Moïse, ça rappelle, ça c'est l'Exode, chapitre 15, verset 1. Dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel, et après vient le texte, « Je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » On connaissait un chant en anglais, même qui était traduit en français, qui racontait un peu ça. Le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau dont on vient de parler. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur de Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint et toutes les nations viendront se prosterner devant toi parce que ta justice a été manifestée. Ça, c'est lorsqu'il va venir régner sur la terre. On verra ça à la fin de la grande tribulation, le retour de pour 1000 ans. Il est dit que les nations viendront se prosterner devant Jésus. Mais on n'en est pas encore là. Il va y avoir cet terrible épisode des coupes. Une petite parenthèse. On a parlé du sanctuaire du tabernacle. Dans Hébreu, il est question de l'arche de l'Alliance qu'on a perdue aujourd'hui, que Steven Spielberg a essayé de retrouver dans son film. Mais dans cette arche, on sait, d'après Hébreux 9.4, qu'il y avait trois éléments. Et en fait, ces trois éléments, ils rappellent que l'homme rejette Dieu. Et en fait, cette arche, il condamne. Ça l'éclaire. Il y a les tablettes de la loi. Mal chronométré dans les feux. Une fois, notre pasteur avait fait un geste comme ça, il avait eu un coup de tonnerre en haut. Les tablettes de la loi, c'est un témoignage du rejet par l'homme de la loi morale parfaite de Dieu. Dans l'arche, il y avait ça. Dans l'arche, il y avait aussi l'urne qui était remplie de la manne céleste. Et ça, c'est le témoignage du rejet de l'homme par l'homme de la façon dont Dieu pourvoit à nos besoins quotidiens. Parce que l'arche, ça leur permettait de vivre, mais ils rouspétaient parce qu'ils leur disaient « Mais jamais on mange de pizza, jamais on mange des frites ici, toujours de la manne. » Et puis, il y avait ce bâton fleuri d'Aaron. Et vous vous souvenez peut-être de l'épisode que Aaron avait été contesté, il avait été choisi par Dieu comme responsable religieux, grand prêtre, mais d'autres juifs avaient contesté son, son leadership, son autorité. Et Dieu lui avait dit, mettez vos bâtons et on verra demain matin ce qui se passe. Et le bâton d'Aaron avait été miraculeusement touché. Il y avait des fleurs d'amandier qui étaient arrivées pendant la nuit. Et ça, ce bâton d'Aaron, c'est un témoignage du rejet par l'homme des chefs choisis par Dieu. Et donc l'arche, quelque part, il rappelle et il condamne l'homme. Alors c'est vrai qu'au-dessus de l'arche, il y avait ces anges et qui étaient un symbole de la présence de Dieu qui pardonne et qui éclairait. Les sept anges qui vont verser les coups, ils sont habillés en fait comme des grands prêtres, comme les sacrificateurs, les grands prêtres. Ils ont des vêtements, des robes de lin pur, ils ont des ceintures d'or. Et puis, il y a, verset 7, l'un des quatre êtres vivants, on rappelle des personnages qui étaient dans la salle du trône, donna aux sept anges de se préparer. Il leur donne les sept coupes d'or remplies de la fureur de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et il y a comme de la fumée, qui en fait est due à la gloire de Dieu qui... Et sa puissance, verset 8. Et personne n'a plus entré dans ce sanctuaire céleste jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges aient été déversées. Voilà, c'est intéressant parce que l'émission de télé, là, sur Direct 8, parlait de chacun de ces phénomènes dont Tonio nous parlera normalement la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions ?
Les plaies et les coupes d'or, c'est la même chose ?
Oui, c'est...
Il y a un truc bizarre au niveau de la chronologie, parce qu'il commence en disant qu'elles ont les plaies, et après il décrit quand il est au sol.
Mais la plaie, c'est pas la... C'est la malédiction aussi, c'est pas seulement le résultat de la malédiction. Une plaie, nous on pensait une plaie à quelque chose de qui...
Je parle pas de plaie, j'ai compris que c'était un fléau.
Ouais.
Et au verset 1, il dit, les anges tenaient les sept plaies. Et après, au verset 7, il y a les quatre êtres qui donnent les coupes d'or aux anges.
Pour mettre les plaies, peut-être, et les versets, je sais. Il y a verset 1, qu'est-ce qu'il est dit exactement ? Je vois sept anges qui tenaient sept plaies, les derniers... Je ne peux pas lire, moi, sur mon truc. C'est quoi le texte exact ? Tu peux lire le verset 1 ?
Dernière, car c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu.
Voilà. Je te laisserai clarifier, si tu veux. Bonne question, je ne sais pas la réponse tout de suite. Jonathan, super. Très bien. Quelqu'un veut prier ? Jean-Claude, je peux te demander de prier pour terminer, s'il te plaît.
Merci Père pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cet enseignement, pour cette nourriture, et je te demande que nous puissions la digérer toute la semaine, Seigneur, et qu'elle nous conduise tout au long de nos activités, Seigneur. Merci pour cette soirée, je te demande de nous accompagner chacun chez nous ce soir. Merci pour ta grâce. Amen. Mm-hmm.